Oui, je suis une femme, c'est une identité, sa femme.
Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois.
C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
Bienvenue sur le podcast des Grandes Girls. Un talk imaginé par des femmes, pour des hommes et des femmes.
Si les Grandes Girls l'ouvrent, c'est pour faire entendre votre voix. La voix de celles et ceux qui osent et font bouger les lignes. La voix de profils inspirés et inspirants dans la région, mais pas que.
Engagé, mais surtout pas excluant, le podcast des Grandes Girls parlera actu, culture, société, santé et tendance.
Je suis Katia Martin.
Je suis Caroline Lévy.
Nous sommes les Grandes Girls.
C'est parti!
Dans ce podcast, nous allons parler des moyens d'expression quand on ne cautionne pas tout. Alors, il y a plein de moyens d'expression et nous allons en parler avec notre invitée, mais aussi avec Estelle, qui est là aujourd'hui, qui revient, ça fait quelques temps quand même, de la Fashion Week et qui va nous parler comment les créateurs, à leur niveau, en tout cas, s'expriment. Et puis Caroline, avec son invitée, va nous parler aussi...
d'expression dans les rues finalement on sait que on peut s'exprimer maintenant partout et on invite en fait en exclusivité alors une personne qui dont on verra pas le visage puisque elle agit masquée et elle est membre notamment du collectif Collage Féministe Strasbourg. On sait que c'est en quelques mois c'est devenu la vitrine féministe activiste dans de nombreuses villes de France et comme le nom l'indique, collage féministe veut dire que ses membres collent partout dans les rues des messages forts.
Et donc, bonjour. Ce sera notre invité, mais j'avais pas fini le sommaire.
Pour
finir le sommaire.
Finissons le sommaire
pour tout un programme pour vous expliquer comment on va vous tenir pendant plus de 40 minutes. À la fin, je vous ferai une chronique pour vous expliquer pourquoi c'est si difficile finalement de déplaire ou de ne pas être aimé. Et on va voir aussi avec notre invitée Caroline comment on peut oser s'exprimer, quitte à déplaire et quitte à se faire parfois insulter, mais je te laisse la main.
Eh bien, aujourd'hui, on ne vous dira pas le nom de notre invité, et pour cause, puisque comme je l'ai dit juste à l'instant, notre invité agit à visage masqué. Alors, certains et certaines à Strasbourg, peut-être la connaissent à titre privé, mais vous l'aurez compris, ça déclenche les passions parfois de coller de façon sauvage des affiches partout dans la ville.
On vous dira juste que c'est une belle fille aux cheveux longs.
En tout cas, c'est une membre active de collage féministe. Alors bonjour, est-ce qu'on invente un prénom pour que ce soit plus simple ou pas?
Comme vous voulez.
Ah ouais.
Est-ce que tu veux qu'on t'appelle, je ne sais pas, est-ce que ou pas?
Pas forcément.
Pas forcément. Alors du coup, on reçoit une membre active de collage.
Si on l'appelait Adèle, je sais pas.
on peut l'appeler comme ça.
Allez. Alors Adèle.
Explique-nous comment. Tu as réussi, avec d'autres membres de l'équipe de Collage Féministe, à imposer finalement ce collectif-là et à l'imposer dans les rues de Strasbourg. Et surtout, qu'est-ce que vous faites au quotidien ?
J'ai pas l'impression qu'on ait imposé quoi que ce soit. C'est une démarche que tout le monde a fait en... Excusez-moi. Oui. Merci. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a imposé en soi. C'est une envie collective, une envie déjà personnelle de vouloir s'exprimer sur un message, sur des messages. Et en fait, on s'est toutes retrouvées ensemble. Et ce qui a fait un engouement énorme avec plus de 100 personnes actuellement qui collent dans les rues de Strasbourg.
Mais quand tu dis toutes,
oui.
C'est qui? Non mais sans donner, non, c'est quoi ce qui vous lie? C'est quoi les liens? Comment on se retrouve autour d'une cause?
Ouais, la colère déjà, premièrement.
La colère,
l'envie de ne pas se taire, l'envie de parler haut et fort, l'envie d'être écoutée, l'envie d'avoir des réponses. C'est important aussi de l'État français, par exemple. Qu'on nous écoute, qu'on nous donne des réponses sur certaines... sur certains fonds, sur...
Quelle réponse, par exemple?
Comment ça se fait qu'on n'ait pas de réponse sur toutes ces violences, sur toutes ces femmes mortes, sur tous ces féminicides? Pourquoi il n'y a pas plus d'aide? Pourquoi pas plus de téléphones mis en service? Pourquoi il n'y a pas plus de logements aussi, de premiers secours pour les femmes? pourquoi la police n'est pas vraiment bien formée à recevoir nos plaintes, hein, à recevoir les plaintes des femmes, quand il y a eu abus sexuels ou violences physiques ou mentales aussi, hein, parce que c'est psychologique, c'est très important de ne pas oublier ces violences-là. Femmes trans et autres. Hein. Voilà.
Alors, on va revenir parce que là, on est déjà dans le vif du sujet. Désolé. Alors qu'à la base, effectivement, on veut comprendre. Pour celles et ceux qui nous écoutent, évidemment, vous habitez, vous nous écoutez peut-être loin, et pas seulement à Strasbourg, mais le collectif Collage Féministe, finalement, comme je l'ai dit, a été déployé dans de nombreuses villes de France. On peut vous retrouver évidemment à Paris, mais partout en fait, hein, à Quimper, Lyon. Enfin, vous êtes vraiment présente partout.
Même dans les petits villages.
Même dans, et aussi, ça a dépassé les frontières françaises, ouais. Puisque en Espagne, en Allemagne, en Belgique et jusqu'en Syrie, eh bien, il y a des membres actifs de Collage Féministe. Et donc, le principe, on vous le rappelle, c'est l'affichage sauvage de messages forts, généralement, j'imagine, faits en pleine nuit. Mm-hmm. Généralement, ouais, je te regarde, mais ouais, pour ça. Éviter...
Parce que c'est illégal. Parce que c'est totalement illégal.
Et oui, c'est pour ça qu'on ne la voit pas, parce qu'on ne sait pas qui est invité. Et du coup, comment ça se construit un collectif et, parce que la fondatrice qui a pris un peu de recul, hein, je crois, oui. Marguerite Stern, qui est une ex-fémène, qui a monté... Collage Féminicide, à la base, a pris un peu de recul. Mais comment vous avez réussi à constituer ce mouvement activiste énorme déployé en France d'abord, mais dans le monde ?
Ouais, je pense que ça touche tellement de femmes, que les violences nous touchent tellement toutes, qu'en fait, une personne fait quelque chose, ça nous parle, on voit le message, on a envie aussi de faire des choses nous-mêmes. Et comme ça, en fait, on a rassemblé du monde. C'est vraiment en collant, en fait. En collant, on ramène du monde qui veut coller, qui veut aussi s'exprimer sur ces démarches-là. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça, en fait, tout simplement.
Alors, on va prendre, parce qu'on est sur votre compte Instagram, Collage Féministe Stras. C'est un peu les mêmes comptes pour l'ensemble des villes. Hein. Mmh. Vous êtes collés, vous avez quand même une communication commune, hein, ouais. Vous vous adaptez pour être plus forte ensemble. Mais si on regarde un petit peu l'ensemble des messages qui sont collés dans les rues strasbourgeoises, ça va vraiment de merci Adèle Haenel à récemment Violansky, ouais. Qui est évidemment, vous rebondissez sur l'actualité et au César, on en reparlera plus tard. Mais aussi... à nos sœurs assassinées, nous sommes le cri de celles qu'ils ont fait taire, féminicide, viol, misogyne, si tu arraches, c'est que tu te sens coupable. Enfin ouais. Voilà, il y a plein de messages.
Des messages aussi de bienveillance, désolé de vous couper.
Oui, nous sommes toutes des héroïnes,
voilà,
par exemple.
Qui sont très forts aussi, qu'il faut mettre aussi dans la rue, qu'il faut voir et entendre et écouter et accepter.
Alors, on va... d'un point de vue pragmatique et logistique. Oui. Comment vous vous organisez pour avoir l'accroche la plus forte et à quel moment il y a une sorte de comité de phrase-choc
où on vote
Violansky, ça c'est bien, ça va sonner, on aime. Comment ça se passe et qui décide d'y aller? Et c'est en fonction, j'imagine, des dispos
et des
volailles.
Et puis qui paye aussi parce que
c'est nous, quand même... personnellement, chacune. En fait, tout simplement, c'est chacune avec ses moyens. Donc il faut du papier. Il faut de la colle à tapisserie ou alors tout simplement de la farine en fait, pour récupérer l'amidon. En fait, de la farine, de l'eau, faire bouillir délicatement, remuer pendant quelques temps. Et de la peinture acrylique et des pinceaux. Et sa motivation à soi, donc sa colère, son envie, son besoin de s'exprimer à soi. Donc, niveau financier, c'est nous, personnellement, à chaque fois. Et au niveau des actions, c'est vraiment... Donc, on a des groupes... de discussions sur lesquelles quand une personne est motivée dit bon bah moi demain, parce qu'il faut le préparer à l'avance, hein, bon, moi demain à telle et telle heure je vais coller dans tel et tel quartier, qui veut se joindre à moi? Les personnes répondent, on crée un autre petit groupe de chacun de son côté prépare les messages et après on va dans la rue tout ensemble, parce qu'il faut jamais 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 être seul, c'est la règle de base
ouais,
deux ou trois, mais trois c'est minimum quoi.
Parce que si vous habitez en centre-ville de Strasbourg, évidemment, vous pouvez voir ces messages collés un peu partout, mais...
dehors aussi.
Évidemment.
En dehors du centre-ville.
Exactement.
Certaines d'entre nous collent dans les quartiers sensibles. Voilà, Haute-Pierre, Neuf, et également dans les petits villages aux alentours.
D'accord, donc en Alsace, ce que vous nous écoutez, et puis ailleurs évidemment en France, vous retrouvez des messages. Alors quelles sont les règles de base de la bonne colleuse ou du bon colleur? Parce que c'est une question aussi, c'est collage féminicide ou féministe, ça a changé de nom. Ouais. On imagine bien qu'il y a derrière ce collectif, il y a beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a des hommes qui se joignent à vous?
Alors il y a eu beaucoup de demandes d'hommes de se joindre à nous, ce qui est très bien, parce qu'on n'est pas contre les hommes, je le répète, ça c'est important de le dire. Seulement, vu que dans les femmes qui font des collages, il y a beaucoup de monde qui a subi des violences, beaucoup de femmes qui ont subi des violences. Donc, on ne souhaite pas imposer un homme à un groupe de femmes qui va coller. On demande toujours si, dans ce groupe-là, est-ce que les hommes sont autorisés ou non, parce qu'on respecte le choix des femmes, en l'occurrence.
Alors justement, on parlait de la fondatrice du mouvement collage féminicide, Marguerite Stern. Il y a eu une polémique ces dernières semaines, ces derniers mois autour de sa présence, puisque elle parlait d'un terme qui était le transactivisme, et que justement on s'emparait de ce sujet-là, et elle dénonçait la présence de cet activisme trans qui se joignait au mouvement. Est-ce que tu le comprends, toi,
son point de vue?
Oui.
Absolument pas. Et je crois que dans toutes les colleuses, c'est pour ça qu'on a changé aussi le nom.
Pour ne pas être associée à elle.
Exactement, on a toutes fait des communiqués de presse, quasiment dans toutes les villes, pour dire qu'on était complètement contre ce qu'elle exprimait. Pour nous, une femme trans, un homme trans, a tout autant sa place dans notre mouvement.
Dans vos combats. Oui,
ouais, dans notre combat, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une oppression, voilà, tout simplement, en fait. Il faut pouvoir accepter tout le monde et c'est important.
Alors on a parlé du dispositif, comment vous vous êtes organisées entre vous, plutôt vous les femmes derrière collage féministe. Mais on imagine bien que même si vous faites ça la nuit et que vous choisissez le bon endroit au bon moment, et que
c'est risqué
vous
quand même. Jamais,
voilà, c'est risqué. Qu'est-ce que vous êtes forcément confrontées aux réactions des gens? J'imagine dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers plus populaires. Quelles sont les réactions auxquelles vous heurtez, ou parfois peut-être agréablement surpris? J'imagine qu'il y a les deux.
Ouais, il y a les deux.
Quelles sont les réactions que vous vivez?
Alors, on va commencer par les meilleures réactions, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Des femmes qui réagissent, qui le voient, qui comprennent le message. Certaines se mettent à pleurer, à fondre en larmes. Ça nous est déjà arrivé, en disant que ça faisait du bien. En fait, d'avoir des messages comme ceci, que ça lui rappelait des choses et que, en fait, enfin, elle se sentait écoutée, enfin reconnue, qu'elle n'était pas seule. Et ouais, c'est pour ça qu'on colle.
C'est la prise de parole, voilà, quoi. C'est libérer
exactement.
La parole.
Ouais, exactement. Et c'est aussi pour celles qui n'osent pas parler, parce qu'on n'est pas toutes faites pareil, heureusement. C'est juste leur dire, on est là, on vous croit, on sait, on vous soutient. Même si vous n'osez pas parler, on le sait. Et ça aide un peu à avancer tous les jours dans le quotidien. Donc c'est très important. Après, voilà, dans les moins drôles, des insultes, beaucoup, des gens qui peuvent devenir violents aussi, c'est pour ça qu'on colle à plusieurs, pour être plus forte.
Est-ce qu'on décolle? On tente décoller pendant que vous êtes en train de coller?
Oui, bien sûr. Des gens qui veulent nous prendre les pinceaux, les seaux. Voilà, à partir de là, nous, on est quand même dans une démarche qui est non violente, c'est pour ça qu'on colle. Et qu'on ne va pas dégrader avec des bombes de peinture et autres. Dans ces moments-là, on essaye de rester assez zen, de faire un peu de la médiation, de l'éducation, mais ça ne marche pas toujours.
Et la police est déjà venue?
Oui, on a déjà eu des soucis avec la police. Bon, certains groupes, moi personnellement, non. Certains groupes ont déjà eu des problèmes avec la police, et là, c'est pareil, ça dépend. Ça dépend sur qui on tombe, c'est toujours, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont dire, ce soir, il y a beaucoup de police qui tourne. Essayez plutôt d'aller dans ce coin-là ou d'attendre un peu plus tard, ce qui est ultra, ultra bien. Des fois, c'est un peu plus musclé.
On ne va pas dire qui c'est non plus.
Des fois, c'est un peu plus musclé aussi. Et c'est pour ça qu'on fait du collage, en fait, pour leur expliquer que, OK, on sait que c'est
quand
même de la
dégradation.
Mais pour eux, c'est quand même de la dégradation. Mais qu'on peut enlever. Ça vous dérange, on tombe sur vous, messieurs les policiers, on enlève, vous voyez, regardez, on peut enlever. Et après, il y a aussi les réactions d'autres femmes qui ont du mal à assumer, mal à comprendre. Et c'est là où c'est important de parler, toujours. Moi, de toute façon, avec n'importe
éduquer,
quel public.
Éduquer, mais c'est la même chose pour tout, en fait. Il faut accompagner, éduquer. Et,
ouais.
Et
Mais si on colle, malheureusement, malheureusement, c'est qu'on n'est pas écouté autrement et qu'on ne peut pas faire de médiation et d'éducation autrement. En tout cas, notre message n'est pas assez entendu, c'est pour ça qu'on colle.
Alors, c'est le but ultime, l'objectif de ça, c'est vous allez faire ça. On imagine bien qu'on espère, on est pleine d'espoir et d'optimisme en espérant que les
un jour, il n'y aura plus besoin.
Voilà, que les consciences vont s'éveiller. J'imagine que c'est le but de vos collages. Mais vous voyez continuer combien de temps comme ça?
Je pense que c'est que le début du mouvement.
D'accord.
Tous les jours, on reçoit des mails de nouvelles personnes qui veulent s'investir, qui veulent coller, qui veulent venir crier dans la rue avec nous. C'est ultra, ultra jouissif de coller. Vous n'imaginez même pas à quel point ça fait du bien. Après une session, on se sent soulagé, on a l'impression d'être ultra badass. Et c'est méga important. Et du coup, ouais, tous les jours, on a de nouvelles personnes. Donc je pense qu'on n'est qu'au tout début du mouvement. Là.
Et vous voyez la jeune génération qui s'engage aussi.
Ouais, parce que j'allais dire, c'est quoi la moyenne d'âge des colleuses?
Alors, comme dans tout mouvement politique fort, c'est souvent des jeunes, souvent des étudiants en université ou même plus jeunes. Là, la plus jeune chez nous qu'on ait eue, elle a 12 ans.
Ah oui?
Ouais.
Comme nous la semaine
dernière.
Bah oui, parce qu'on a reçu des jeunes femmes engagées, jeunes femmes.
Ouais, qu'on connaît bien dans notre mouvement. Pas forcément chez les colleuses, mais en tout cas qu'on connaît bien dans les mouvements féministes.
Mais qui sont engagées. Donc
c'est génial à cet âge-là, c'est super. Donc voilà, ça va de tous les âges. Ça va vraiment. Donc la plus jeune, 12 ans. Et il y a des fois, il y a les parents d'amis qui viennent. Il y a tout le monde qui. Il y a tout le monde qui vient. Tout le monde. C'est un truc de fou.
C'est un moment de fête, quoi. Il y a comme
c'est un peu de
jouissif. On a l'impression que c'est un moment de partage.
C'est un peu ça.
Vous retrouvez sur des valeurs et sur une envie commune d'exprimer des choses. Et puis après, il y a un côté, comme tu le dis, peut-être ludique aussi, de coller, de faire...
Ça exorcise.
C'est, comme on l'a dit au démarrage de ce podcast, c'est comment exprimer et comment ne pas garder pour soi et arriver d'une manière ou une autre à le sortir, quoi. Donc là, on sort les mots, on les pose, on les voix, ils sont là, ils restent.
C'est une manière de laisser une trace.
Déjà,
quand on met en action quelque chose, on essaye de se soigner soi ou nos proches en faisant ça.
C'est intéressant. Non, mais je regarde la coach à mes
côtés.
On est dos à dos aujourd'hui.
Mais on va en parler plus tard parce que c'est. Et on l'a vu dans l'actualité, on va peut-être aussi en parler à un moment, mais aujourd'hui, on ose se lever, on ose dire non, on ose faire des choses et s'exprimer d'une certaine manière. On le faisait peut-être pas autant ou comme ça avant. Et ce qui ressort, c'est que ça fait du bien et que c'est spontané et que c'est.
Alors pour ceux qui nous écoutent, comment vous aider Collège Féministe Strass? S'engager? Comment vous aider?
Vous trouverez les informations sur notre Instagram et notre page Facebook. On est toujours en recherche de dons, tout simplement, que ce soit des gros pots de colle, du papier, des rames de papier blanc A4, de la peinture à linogravure noire. C'est bien, des pinceaux. C'est des choses toutes simples, en fait. Et après, aussi, juste de nous soutenir, de rediffuser le message. C'est la moindre petite action que vous pouvez faire, c'est rediffuser nos messages. Plus ils seront diffusés, plus ils seront vus, plus peut-être que les consciences s'élèveront. Et après, celles qui veulent vraiment passer à l'action, nous envoyer un mail et nous rejoindre. Ou alors même avec des amis à vous, prendre des pinceaux, des feuilles et le faire.
Super.
Et écrire ce que vous avez envie d'écrire.
Donc on rappelle collage féministe Strass sur Instagram et j'imagine aussi sur Facebook. Voilà, merci infiniment. Alors on va toujours pas révéler ton prénom, Adèle, puisqu'on t'a appelé Adèle.
Ça fait quoi de se faire appeler Adèle?
C'est pas mal quand même. Je me sens pas aussi badass qu'elle, quoi.
mais c'est chouette en tout cas et on est ravis de t'avoir reçu dans l'émission, même si les auditeurs t'écoutent.
Ils comprennent, on comprend
le message et on vous soutient évidemment. C'est super ce que vous faites. Ouais. Et merci d'éveiller conscience de cette façon.
Voilà. Alors, en parlant d'éveiller les consciences, on sait qu'en ce moment, et l'actualité a fait que, voilà, on en parle de plus en plus. Et dans ce podcast, on a envie de parler finalement comment chacun, à son niveau, prend la parole, fait passer des messages. Et Estelle, qui peut nous voir depuis un certain temps, est contente de te voir. Salut Estelle.
Hello. Donc, j'ai envie de dire bonjour à toutes les héroïnes qui nous écoutent.
C'est ça. Et donc, toi, tu vas nous parler. Donc, Fashion Week a eu lieu il y a quelques temps à Paris. Tu as pu évidemment y participer dans le cadre de ton activité. Et donc, tu vas nous parler un peu de finalement comment aussi ces créateurs, à travers la mode, s'expriment et prennent position par rapport à tous les mouvements et toute l'actualité.
Exactement. Vu que c'est un petit peu mon secteur, dirais-je même mon dada, on va parler de fringues, de couture, de défilés et de prise de position. Dans la mode, comment les créateurs prennent la parole autour du féminisme aujourd'hui ? Donc la Fashion Week parisienne vient de se terminer et encore une fois, un vent de féminisme a soufflé sur une bonne partie des défilés. Non, je ne vais pas vous parler du freestyle de la fille de Kim Kardashian et de Kanye West.
Ni de son cri terrible.
Et de son cri du haut de ses 6 ans.
J'ai pas vu.
Non, mais tu n'as rien raté.
Un freestyle pendant le défilé de la marque de son père, la marque Yeezy. Et en fait, tout le monde n'a retenu qu'elle. Quoi. Du haut de ses 6 ans, elle a crié, elle a volé la vedette du défilé. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mais j'ai plutôt envie de vous parler du défilé événement de la maison Dior qui a dézingué le patriarcat. Je pense que vous avez toutes vu les images. Bien sûr, la collection automne-hiver a revisité toute l'automne, toute l'histoire de la maison créée par Christian Dior en réinterprétant les modèles iconiques de la maison. Le fameux tailleur bar que vous connaissez, mais aussi des imprimés carreaux, des casquettes Gavroche, des tailleurs pantalons. Bref, des pièces qui ont déjà participé en leur temps à donner du pouvoir aux femmes. Comme d'habitude, c'était vraiment sublime, comme tout ce que fait Dior. Mais on retient surtout ce que Maria Grazia Curie, donc la directrice artistique de la maison Dior, a fait de ce défilé un espace de revendication artistique et féministe. Le plafond était recouvert de messages lumineux tels que, donc je vous le dis en français, « Quand les femmes sont en grève, le monde s'arrête », ou encore le mot « consentement », ou « Les femmes relèvent le niveau », ou encore « Les femmes sont toutes clitoridiennes
». Ce qui n'est pas vraiment juste, mais...
Mais on a reproché à cette phrase d'exclure la communauté trans, forcément.
Ah, j'ai compris la communauté vaginale.
C'est vrai, ça c'est vrai. Il y a plusieurs écoles. La communauté, bon.
Excuse-moi. Bah... Impossible de voir une seule image du défilé sans voir ces messages qui illuminaient le plafond ou encore les pages d'articles de presse qui tapissaient tout le sol. Une sorte de métaphore pour dire que les femmes dominent l'actualité en ce moment, peut-être. Rappelons que la directrice artistique de Dior, donc Maria Grazia Curie, dès son arrivée chez Dior en 2016, a tenu à insuffler un féminisme affiché dans toutes ses collections. Le fameux t-shirt « We should all be feminist » de 2017, qui a fait couler beaucoup d'encre et aussi beaucoup d'argent, à 620 euros le t-shirt en coton.
620 euros.
Et il est toujours vendu, mais au début, il a été sold out en quelques jours et... Voilà. Et comme toute pièce de luxe...
Alors qu'il suffit de prendre du papier
et
de la peinture et de mettre un message. Non, t'es pas d'accord
Je ne m'exprimerai pas.
Ah bah si, tu peux t'exprimer, on est là pour dire.
Je suis d'accord. Tout à l'heure, Adèle.
Parce que...
Non mais si, mais on s'exprime.
Bah, 620 euros pour être féministe, ça fait beaucoup, moi, je trouve. On prend des stylos, voilà.
On va coller.
Après, chacun son point de vue.
Donc, comme toute pièce de luxe, ce t-shirt fut immédiatement imité et reproduit par milliers, une fois que l'original ait été en rupture de stock quasiment immédiatement. Mais c'est d'ailleurs ça le nœud du problème, c'est exactement ce qui est reproché aux maisons de couture. C'est le flagrant délit d'opportunisme et de récupération. Certaines et certains se disent « le féminisme est à la mode, engouffrons-nous dedans pour faire de l'argent ». On reproche aux maisons de couture de donner de la voix au féminisme assez tardivement, alors que les notions de consentement et d'égalité auraient dû bénéficier de cette visibilité bien avant, quand le combat était encore plus ardu. On reproche aussi aux maisons de couture de faire de la revendication quelque chose de cool et de sympa. Pensons au mannequin faussement révolté de Chanel il y a quelques saisons, c'était en 2015 plus exactement. Il a été reproché à la maison Chanel d'afficher une légèreté autour de la revendication avec des panneaux plutôt simplistes comme « les garçons devraient être enceintes » ou encore par l'attitude complètement hilar des mannequins. Et plus globalement, le thème du féminisme opportuniste de la mode appelle à d'autres questions. Tout d'abord, est-ce qu'un défilé de mode peut vraiment être féministe? Est-ce qu'un défilé avec des mannequins filiformes et sublimes peut être féministe? Est-ce qu'un défilé qui s'adresse à une microscopique partie de la population, forcément la plus riche et la plus privilégiée, peut être féministe? Et plus encore, la mode qui prône le diktat de l'apparence, de l'argent, peut vraiment être féministe. Bien sûr, la mode semble être tout sauf féministe. Mais avant de critiquer gratuitement toutes les tentatives de revendication féministe, aussi maladroites soient-elles, il faut d'abord envisager l'écho assez formidable que les défilés, messages, collections ou mises en scène féministes peuvent avoir. L'aura internationale, les médias qui décryptent et publient les images par milliers, toutes ces revendications gagnent ainsi une visibilité inestimée et indispensable pour la cause. Plus on parle du féminisme, plus on éveille les consciences et mieux on mène le débat. Et au-delà du message féministe imprimé sur des t-shirts ou reproduit sur des néons, n'oublions pas que la mode porte aussi des messages qui donnent du pouvoir aux femmes depuis à peu près toujours. Par exemple, le blanc des suffragettes, la fin du corset après la libération du corps de la femme, le smoking d'Yves Saint Laurent qui transgressait totalement les règles à l'époque, les corps de Céline, on en a déjà beaucoup parlé, qui désexualise les silhouettes pour donner de la puissance à la femme. Et moi, ce que j'apprécie, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce point de vue, c'est que même si le féminisme devient peut-être bankable, donc pour faire de l'argent pour les maisons de couture, j'aime l'idée que des initiatives comme celle de Dior rendent le mot féminisme à la mode et que l'on ose enfin le porter fièrement sur un t-shirt ou dans ses revendications ou sur du papier collé sur des murs. Pour moi, ça participe quand même progressivement à la déconstruction de la notion nauséabonde qu'on a voulu nous faire croire que féministe était quand même un gros mot à une époque.
Oui.
Mais non, mais c'est très intéressant.
C'est très intéressant. Alors, notre invité qui veut pas prendre position, mais est-ce que tu as quand même un avis là-dessus? Est-ce que tu penses que malgré tout, on imagine bien que c'est décrié et qu'il y a de l'opportunisme évident dans cette avancée du féminisme, que ça devient tendance d'être féministe. Est-ce que malgré tout, ça ne sert pas la cause quand même à donner plus de visibilité et à aider à libérer la parole? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ouais, je pense qu'effectivement, plus on en parle, plus ça se démocratise, plus voilà, ça va prendre de l'ampleur. Seulement, encore une fois, voilà, c'est un problème de... Là, en l'occurrence, par rapport à la mode, c'est quand même un problème de gens qui ont de l'argent, qui sont cultivés, qui ont une certaine culture, une certaine connaissance.
Mais qui ne sont pas préservés, qui sont pas préservés du combat dont on parle.
Voilà.
Mais non, oui, ils ne sont pas préservés.
C'est ouais. Ça.
Non, bien sûr.
Mais en l'occurrence, voilà, ça va toucher une certaine partie de la société et pas le trois quarts du reste.
Alors, qu'ils le voient. Oui et non. Parce que quand tu vois les défilés, tu vois tout le monde. C'est-à-dire que de ton canapé, même si tu n'accéderas jamais et que tu t'achèteras jamais un t-shirt Dior,
est-ce que ça
tu
te touche? Est-ce qu'à ce moment-là, le message te touche ou non? C'est une question que je me pose personnellement.
Moi particulièrement, pas forcément, même si je trouve que c'est bien, mais je veux dire, ça fait rêver. Enfin, les grandes marques sont quand même des exemples et attirent quand même la majorité, l'œil en tout cas, et le public. Donc, ça permet quand même de couvrir plein de gens. Parce que les grandes marques ne s'adressent pas que à des gens riches.
Et d'autant plus que c'est souvent repris par des marques mainstream et qu'une tendance
c'est ça, c'est
sur un défilé,
elle est initiée
par les grandes marques, et qu'ensuite il y a tout un tas de marques grand public qui vient copier allègrement les tendances qu'ils voient sur le défilé quelques mois plus tôt. Donc finalement ce qu'on voit, ces créateurs-là vont impulser une vraie tendance qui sera reprise partout dans le monde et dans toutes les classes sociales finalement.
Et on ose le porter finalement sur soi et assumer qu'on est féministe. Et je me souviens il y a quelques années, quelques dizaines d'années, c'était presque honteux de dire qu'on était féministe. Et moi, je pense aussi que tous les milieux sont touchés par les violences.
Ouais, c'est ça.
Bien sûr,
les milieux.
C'est pas un problème de milieu, c'est un problème de comportement, de patriarcat. Et je pense notamment à Simon Porte Jacquemus, qui, suite aux événements lors de la cérémonie des Césars, a quand même fait une story sur Instagram en disant qu'il faut que cela cesse et que ça touche tous les milieux, même le milieu de la mode, en fait. Donc moi j'apprécie cette voie.
Exactement.
D'accord.
Et en plus, ça n'a rien de néfaste.
C'est-à-dire
qu'on ne peut pas être critique ou dire ça, puisque de toute façon, ça porte juste là-bas et ça peut pas avoir un effet négatif.
Après, j'imagine que certains collectifs, certains mouvements très activistes, très engagés, voient ça comme de l'opportunisme.
Mais c'est pas négatif quand même. Ça ne dessert pas la cause.
Alors ça ne la dessert pas, sauf si c'est pour le même but, c'est-à-dire que il y en a un qui peut être simplement pour surfer sur une vague et faire de l'argent et sans fond et de façon très superficielle, et l'autre qui est vraiment revendiqué, impliqué, engagé, voit ça comme bah, contre-productif. Enfin, je sais pas.
Après, alors... tout est bon à prendre. C'est tant qu'on le voit et tant qu'on en parle de plus en plus, c'est là où
exactement
le plus important.
Merci, merci beaucoup à toutes les deux. Alors pour finir, effectivement, je voulais faire un petit peu un lien par rapport à tout ça. Et comme on le dit, on le voit bien que même quand des marques prennent position telle que Dior, eh ben, ça peut plaire, mais ça peut aussi déplaire. Et causer déplaire, eh ben, c'est choisir d'être fidèle à soi-même avant de l'être aux autres, ce qui n'est pas évident. Et je voudrais... je vous expliquer pourquoi. Et pour ça, il faut revenir évidemment à l'enfance, parce que quand on est petit, quand on déplaît, on est puni. Et puis quand on fait quelque chose de bien, on est félicité. Et donc du coup, le fait d'assumer et d'oser déplaire, c'est d'exister par soi-même, hors de la fusion avec les parents ou avec les autres, etc. Mais c'est une étape qui est vraiment compliquée. Alors, je m'installe bien.
Oui, vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas Katia,
mais je suis un peu éclopée. Voilà. Mais je suis là, fidèle au poste. Alors, finalement, je voudrais vous parler du fait d'oser plaire et d'accepter de ne pas être aimé. C'est aussi, ça peut être compliqué, mais finalement, c'est aussi une recherche d'une liberté profonde. Parce qu'être libre, c'est oser déplaire et c'est oser parfois ne pas être aimé. Et je reviendrai alors, sur un livre que j'aime beaucoup. Un des auteurs, c'est Tom Robbins, qui a écrit une lettre qui s'appelle « Lettre à un ami ». Et il a une approche de la vie aussi qui se dit que finalement, on est acteur de notre vie et que c'est choisir avec courage les chemins qu'on souhaite parcourir. Et un des principes importants, c'est ce refus du déterminisme, c'est-à-dire de dire il y a une cause à effet, c'est-à-dire parce que j'ai vécu ça, je vais vivre ça. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut croire, le présent n'est pas du tout une conséquence de notre passé. C'est pas parce qu'à un moment on a vécu ça, ou qu'on a subi ça, ou qu'on a vécu telle expérience, que ça va impacter notre présent. C'est-à-dire qu'on choisit nos actions dans le présent par rapport à un objectif qu'on souhaite atteindre. Et cet objectif, ok, il peut être inconscient, mais il y a aucune expérience de notre vie qui en soit la cause d'un échec ou d'un succès, etc. Parce qu'en fait, c'est l'interprétation que l'on pose par rapport à nos expériences. C'est pas ce qu'on a vécu. C'est nous qui sommes capables d'une expérience, d'en faire quelque chose de positif ou de négatif. C'est-à-dire notre vie, elle est le résultat, certes, de nos choix, mais elle dépend du sens que l'on donne à nos expériences. C'est-à-dire qu'on peut très bien, quand on vit une expérience, décider de se mettre en victime et de dire que toute sa vie, on vivra ça parce que, etc. Mais c'est faux, parce qu'on peut aussi se dire, cette expérience-là m'a permis de ressortir grandie, d'être plus forte et d'utiliser ça différemment. Il faut savoir qu'on a quand même la capacité à chaque moment de notre vie de pouvoir changer l'instant tel qu'il est. C'est-à-dire que peu importe les bagages qu'ils nous ont donnés à notre naissance, c'est ce qu'on en fait. Et l'expérience, moi, me le prouve. Je suis entourée de personnes tellement différentes, avec des gens qui ont eu un bagage de vie où tu te dis, oh, putain, moi, si j'avais vécu ça, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Je pense à un ami qui n'a pas eu de chance d'avoir des parents, qui a été, qui a pas eu d'affection du tout, qui a été de foyer en foyer, où finalement, on peut dire, il aurait toutes les raisons du monde pour se plaindre et se dire que sa vie sera difficile, et qui a cette capacité aujourd'hui et d'avoir réussi sa vie et d'être reconnaissant et de tous les jours voir la vie comme si c'était le meilleur jour. Et donc ça prouve bien que c'est pas parce qu'on a eu une vie ou une expérience qui fait que, en fait, notre style de vie, c'est quelque chose qu'on choisit par soi-même. Et son style de vie, c'est la responsabilité qu'on a justement de faire quelque chose et d'avoir une vision différente. Finalement, les problèmes de notre vie, c'est des problèmes interpersonnels. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des individus sociaux et nous existons à travers les relations qu'on a à travers les autres. Et ça, c'est clair. Et donc, on peut changer ce regard-là. Parce que souvent, on peut avoir tendance à passer notre temps à se comparer aux autres. Et Stel, tu le vois très bien quand on parle d'Instagram, de voyeurisme, c'est qu'on se compare tout le temps et on a toujours l'impression que la vie des autres, elle est mieux que les nôtres ou qu'on est plus belle, enfin qu'il y en a d'autres qui sont plus belles. Mais on sera toujours mieux que quelqu'un et on sera toujours moins bien que quelqu'un. C'est-à-dire qu'on aura toujours plus que quelqu'un et on aura toujours beaucoup moins que quelqu'un. Donc si on se compare en permanence, on ne peut que être malheureux. Et donc il faut arriver à sortir du schéma de compétition. Et c'est là que le monde devient beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple, parce qu'on sort de cette compétition-là et on arrête et de se comparer et aussi de simplifier les relations avec les autres. C'est vrai que quand on était petit, en fait, quand on faisait quelque chose de bien, on disait c'est bien et on nous félicitait on nous félicitait, et quand on faisait quelque chose de mal, on nous punissait. Ce qui fait que du coup, on a été élevé dans un système de récompense et de punition. Donc on agit, on prend des décisions, on fait des actions, on est influencé par la réaction des autres, parce qu'on veut en retour, alors soit la reconnaissance sociale, soit de l'amour, soit de la validation. Mais en tout cas, on fait souvent nos choix par rapport à l'attente des autres. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que si on veut être autonome, eh ben, il faudrait qu'on puisse faire les choses par rapport à soi et pas que par rapport à un objectif de reconnaissance ou de validation des autres. Et ne pas toujours être aimé, bah, parfois c'est le prix à payer pour être libre dans des relations interpersonnelles. C'est-à-dire agir en déplaisant par rapport aux autres, par rapport à nos amis, aussi par rapport à la société. On le voit avec Collage Féministe, c'est d'oser faire des choses qui enfreignent la loi. Donc c'est prendre le risque aussi d'être puni, c'est de ne pas être validé par tout le monde, etc. Pour être libre, en fait, il faut avoir le courage de déplaire. Il faut réussir à dépasser la peur que nos relations puissent s'écrouler à cause de nos actions et de nos décisions. Il faut savoir être capable de dire « je peux pouvoir renoncer ». Et tant qu'on est centré sur notre besoin d'être aimé, eh ben, on ne peut pas finalement être libre. Voilà. Et puis aussi, la plupart de nos relations, en fait, elles sont verticales. Quand je dis verticales, c'est-à-dire parent-enfant, chef, subordonné, etc. Donc on est toujours finalement au-dessus, en dessous de quelqu'un. Et donc forcément, il y a un pouvoir, il y a une forme de réprimande, on est dans le jugement, on est dans tout ça. Et moi, je prône les relations horizontales, c'est-à-dire qui sont basées sur l'encouragement, la gratitude, où finalement, si on est ensemble, si on partage des temps ensemble, c'est pas parce que, et on le voit, et on est un très bel exemple, Caro et moi, Estelle, ou les invités qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lien subordonné, il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre, l'autre qui est en dessous, il n'y a pas de pouvoir particulier. En fait, on est ensemble parce qu'on a plaisir à être ensemble, parce qu'on a des objectifs communs. Nos objectifs, c'est de se faire plaisir, de vous partager en tout cas, de vous faire d'éveiller les consciences, de faire passer des messages, d'oser et tout ça. On se retrouve sur ça et on est dans nos relations, dans une forme d'encouragement, de gratitude. Et on le sait, notre marque de fabrique, c'est aussi de se charrier, de se dire les choses. Mais je trouve qu'on le fait toujours hein, dans une forme d'encouragement, de gratitude, de bienveillance. Et qu'à partir du moment où il y a ça, eh ben, on peut tout se permettre. Et en tout cas, on se fait...
N'en déplaise.
On se fait... N'en déplaise.
N'en déplaise.
On se fait en tout cas du bien.
On se fait du bien, oui.
On se fait du bien.
Excusez-moi.
Voilà, tout ça pour finir, quand, en fait, dans les relations, et donc vous pouvez le tester déjà par rapport aux gens qui sont autour de vous, même une seule personne qui peut être notre conjoint et tout ça, mais tester cette relation qui est vraiment plus basée sur... féliciter quand on fait quelque chose à l'autre, et je l'avais
évoqué
déjà dans une autre chronique, c'est valider qu'en fait quand on veut aider l'autre, d'être sûr qu'il a besoin d'aide et pas d'agir égoïstement en disant j'arrive en super héros et je vais t'aider, etc. Mais ça veut dire qu'on met l'autre en victime aussi, ou que en tout cas on lui en laisse son autonomie. Donc c'est vraiment d'être dans une relation, quand je dis horizontale, plus, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans la capacité à se mettre à la place de l'autre et de se dire, quand je fais quelque chose, est-ce que ce que je fais, ça nourrit mon besoin à moi, ou est-ce que ça va aussi nourrir la relation et l'autre. Et donc, oser déplaire, oui, c'est important. Et la première étape, pour résumer, c'est pouvoir se détacher du regard des autres et de l'importance d'être validé, d'être reconnu ou d'être récompensé. Et ce qui est un schéma finalement assez naturel, puisque c'est ce qu'on nous a donné depuis petit à l'école. Tu travailles bien, tu as une bonne note. Tu travailles à l'école, tu as un diplôme. Tu travailles bien, bah, tu as un travail et donc tu as de l'argent, etc. Voilà mon petit message du jour.
Donc il faut oser déplaire pour être libre. C'est un peu ça, en s'exprimant.
Oui.
Dans les rues, ou en s'exprimant sur un message dans sa tenue vestimentaire, dans la mode, ou que sais-je.
Ou lors d'une cérémonie.
Ou
lors d'une cérémonie.
Et donc, on remercie Adèle. Hein, merci Adèle, puisque tu t'es
merci
appelée Adèle aujourd'hui.
Merci Adèle, merci Estelle. Ben oui, mais ça rime, t'as vu quand même que j'ai choisi non seulement un nom qui...
Incroyable. Tu peux faire une chanson.
Exactement.
Adèle, Estelle.
Merci à toutes pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à nous envoyer des messages sur Instagram.
Ou à les coller.
Ou à les coller d'ailleurs. Ouais. Hashtag les grandes girls. Et on se retrouve pour le prochain podcast.
Oui, je suis une femme, c'est une identité, sa femme.
Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi, et chaque coup que tu reçois...
C'est d'abord aux femmes
de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.